Il y a quelques semaines, vous vous en souvenez certainement, le cyclone Matthew passait sur Haïti et il a provoqué de graves dégâts, beaucoup de victimes, mais aussi une pénurie d'eau potable. La malaria commençait à se développer. Et des secours ont été dépêchés depuis la France, une équipe notamment de 60 militaires, 32 tonnes de matériel, a été dépêchée sur place et ils avaient pour mission principale d'installer deux stations de purification d'eau. Le journaliste qui a interrogé le commandant de cette expédition, juste avant le départ, il disait mais quand ? Quand est-ce que les Haïtiens vont avoir de l'eau qu'ils vont pouvoir boire? Et lui, il cherchait à répondre en expliquant comment il allait produire de l'eau propre. Les Haïtiens, peut-être se seraient satisfaits de bouteilles d'eau. Et parfois, c'est comme ça qu'on voit la chose, donnez-nous juste de l'eau, c'est juste de l'eau qu'on veut. Mais là, le commandant, il était en train de montrer que mieux que de l'eau, mieux que des bouteilles d'eau, c'était une station de purification qui pouvait secourir véritablement et durablement les Haïtiens. Il se trouve que nous fonctionnons souvent ainsi. Nous voulons de l'eau plutôt que la source. Nous voulons la bénédiction plutôt que celui qui bénit. La révélation de la grâce de Dieu dans ce passage peut transformer le cœur de l'homme et faire d'un homme qui était mondain, roublard, un homme qui adore celui qui bénit, le Dieu vivant. Et cette transformation, elle est due à l'intrusion de Dieu dans sa vie. Je crois que la bénédiction suprême pour un homme, c'est lorsque Dieu fait irruption dans sa vie. Et c'est ce que Jacob va connaître. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions aussi connaître cela. Notre série sur béni pour bénir, je voudrais montrer quand Dieu fait grâce, on va voir que Jacob avait cette fin, cette poursuite constante de la bénédiction de Dieu. On verra ensuite la suprême manifestation de la grâce de Dieu. Et puis on verra enfin l'attachement à celui qui bénit. Regardez tout d'abord la poursuite de la bénédiction. Jacob, c'est vraiment un homme intéressé par la bénédiction de Dieu. On le voit très tôt profiter de la fatigue et de la fringale de son frère qui rentre de la chasse. Et il est épuisé et puis il dit « mais je vais mourir de faim ». Et il dit « mais tiens, regarde, j'ai un super potage pour toi, aux lentilles. Seulement je te le donne pour simplement la bénédiction. Simplement pour le droit d'aînesse. » Et lui se fait rouler, Ésaü se fait rouler, il accepte ce mauvais troc. Puis il va se débrouiller pour se faire passer pour son frère devant son père, devenu aveugle, pour recevoir cette bénédiction. Il est prêt à tromper, il est prêt à trahir, il est prêt à mentir pour obtenir cette bénédiction. Il devient à présent, à cause de son péché, un fugitif. Il est en fuite. Il a peur pour sa vie. Il file sans dire au revoir à son frère, notamment. Et il fait quelques jours de marche. Et puis à ce moment-là, il est seul. Et il est un peu minable, en fait. Il n'a plus de famille. Il n'a plus de soutien matériel que lui procurer son père. Il n'a plus la protection ni la sécurité que lui offre le clan d'Isaac. En fait, c'est un fils qui est troublé, qui cherche sa place dans ce monde, dans sa vie. Certes, il a obtenu la bénédiction, mais en trompant son monde. Voyez-vous, on recherche tellement la bénédiction. On veut une vie bénie, qu'on est prêt parfois à tout pour l'obtenir. On veut un beau mariage, on veut une famille unie, on veut une réussite professionnelle, on veut une réussite dans les études. Tous, nous avons le désir de faire quelque chose de nos vies. Nous aspirons à une bonne vie. Et c'est plutôt une chose normale, ou une bonne chose même, que d'aspirer à avoir une vie qui compte. Mais comment poursuivons-nous cette bénédiction ? Vous êtes peut-être né, comme Jacob, dans une famille de croyants. Vous reconnaissez et vous voyez la bénédiction de Dieu dans votre famille. Puis vous la voulez pour vous-même. Mais êtes-vous intéressé par celui qui bénit ? Jusqu'ici, Jacob, il n'a jamais rencontré Dieu. Il n'a jamais souhaité même le rencontrer. Il voulait juste la bénédiction. On ne l'a jamais entendu prier. On ne le voit jamais adorer. Il n'est pas intéressé par Dieu. Il n'est pas intéressé par ce qui plaît à Dieu. Toutes ses œuvres le montrent. Mais il est simplement intéressé par ce que Dieu peut lui donner. Alors, Dieu choisit de rencontrer Jacob. Il le fait une nuit où Jacob est seul. Et ça, je trouve ça très important pour chacun d'entre nous, parce que quand Dieu il nous parle, il le fait souvent seul à seul. Il est loin des siens, et à ce moment-là, Dieu lui apparaît de façon tellement spectaculaire, dans un rêve que Jacob s'écrit, « Cet endroit est redoutable !» Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Et il se révèle dans un songe dans lequel le ciel et la terre sont reliés par une échelle. Et les anges montent et descendent depuis le ciel. En Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit que « Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Les anges sont au travail là pour conduire Jacob vers Dieu. Et Dieu domine tout cela. Et l'explication est claire. C'est comme si Dieu lui montre qu'il est en train d'intervenir dans toutes les choses de ce monde. Il lui montre que Dieu intervient en permanence dans les affaires des hommes. Dieu est là. Il est au contrôle de toutes choses. C'est comme si Dieu lui disait, « Depuis ta naissance, Jacob, depuis ta naissance, tu trafiques, tu magouilles, tu te trompes pour obtenir la bénédiction. Mais c'est moi qui interviens dans les affaires des hommes. Et tu n'aurais pas obtenu la bénédiction si je ne l'avais pas voulu, moi. » Et Jacob reconnaît tout ce qui est en train de se faire, de se passer dans sa vie. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le permet. Dieu intervient dans nos affaires pour nous offrir la véritable bénédiction, la plus grande bénédiction qui soit. En Jean chapitre 1, j'aimerais vous montrer cela. Jean 1, versets 47 à 51, c'est le passage dans l'évangile de Jean où Jésus rencontre les premiers disciples. Je lis verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est l'expression par laquelle Jésus aime le plus souvent se qualifier. C'est le moment où il se présente à ses disciples, où il rencontre ses disciples, c'est le moment où le ciel s'ouvre sur les disciples. Et là, Jésus ne dit pas, « Oh, regardez, là, en voyant Nathanaël, regardez, ça, c'est un homme vraiment sans fraude. » Il ne dit pas, c'est un Galiléen sans fraude. Il dit, c'est un Israélite. Et je crois vraiment que quand il dit, c'est un Israélite, il fait référence, il fait une allusion directe à Jacob. Jacob va devenir Israël dans quelques jours, dans quelques chapitres. Et il dit, voici un homme, un Israélite sans fraude. Pas comme Jacob. Il est en train de dire que les motivations de Nathanaël ne sont pas celles de Jacob. Jacob, lui, voulait la bénédiction, mais il ne voulait pas le Dieu qui bénit. De ce fait, son cœur reste vide. Mais chez Nathanaël, tout est différent. Jésus discerne un cœur qui cherche Dieu, plus que la bénédiction. Et au verset 48, du coup, Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu ? Et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, je crois véritablement que Jésus lui révèle quelque chose que Nathanaël seul connaît. C'est-à-dire, Nathanaël, il n'était pas sous le figuier comme ça, juste. Nathanaël, il était en train de vivre quelque chose avec Dieu sous le figuier. Il était certainement dans cette attitude où il demandait à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître ton salut. Je veux vivre avec toi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Conduis-moi dans ta présence. C'était quelque chose, un désir qu'il y avait chez Nathanaël d'avoir contact véritablement avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus fait référence à ce moment-là, sous le figuier. Voilà ce que Jésus a vu dans le cœur de Nathanaël. Il n'y avait pas de fraude, pas une approche de Dieu pour avoir des questions, mais pour avoir Dieu lui-même. J'ai un ami de longue date qui m'a raconté sa conversion. Et il était autrefois militaire et puis il a quitté l'armée et puis il s'est installé dans la région de Strasbourg. Et puis là, il avait mis un peu d'argent de côté et puis il était dans une chambre d'hôtel, il cherchait du travail, mais il ne trouvait pas de travail. Et puis il voyait le petit pécule qu'il avait amassé fondre jour après jour. Et puis il voyait ce jour où bientôt il n'allait plus pouvoir louer un appartement, une petite chambre. Et il commençait à paniquer et puis il s'est dit, mais chaque fois que je vais pour louer un appartement, on me dit, vous avez un travail, vous habitez à quel endroit? Et il ne peut pas répondre à ces questions et à chaque fois, c'est quelqu'un d'autre qui a l'appartement. Il était dans cette extrémité et il se rend encore à un autre rendez-vous et il est un peu en avance, alors il attend sur un banc et il dit, Seigneur, je ne te connais pas. Mais si tu m'aides à obtenir cet appartement, alors je ferai un petit effort de te connaître. Et il rouvre les yeux, et un homme qui se pointe avec un traité, qui parle de Dieu, de l'Évangile, et lui donne le traité, puis au dos, il y a l'adresse d'une église évangélique. Il s'est dit quand même, bizarre ce truc. Il va au rendez-vous, il est tout seul. Le propriétaire, je veux absolument régler cette affaire, vous n'avez aucune garantie à me fournir, mais je ne sais pas pourquoi, je vous le donne, cet appart. » Et il repart avec son appartement. Et il dit, « Dieu, que ce lieu est redoutable. Je viens juste de dire à Dieu de m'aider à trouver cet appartement, d'obtenir cet appartement. J'ai cet appartement. J'ai fait cette promesse. Je suis prêt à faire un effort pour te connaître. J'ai déjà une adresse. J'ai déjà un traité avec des versets de la Bible. Que ce lieu ou que ce Dieu est redoutable. » La suite, c'est qu'il s'est approché de Dieu comme cela. Dieu a fait irruption dans sa vie. Il a goûté au salut de son âme. Il a mis sa confiance en Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est la même chose qui s'est passée pour Nathanaël. Il est sous son figuier, il parle à Dieu, « Je veux te connaître. » Puis des amis viennent le voir, ils lui disent, « Eh viens, on va te montrer. » Quelqu'un, on dirait que c'est le Messie. Et le Messie lui dit, « Je t'ai entendu. Tes paroles, elles étaient dans ton cœur, mais j'ai tout entendu. » Et j'y ai répondu. Et là, il est bouleversé, Nathanaël. Et c'est pour ça qu'aussitôt, il répond, « Alors, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu toi-même. Il n'y a que Dieu qui puisse lire dans mon cœur, de répondre à ma prière. » Et Jésus répond à Nathanaël et à ceux qui sont avec lui, verset 51. Et vous verrez, j'ai perdu ma page. En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de Dieu. » Et là, l'allusion à notre passage en Genèse est claire. Jésus dit aux jeunes disciples, comme Jacob a compris que Dieu était là, « Dieu est là avec vous. » Jésus, il est la porte du ciel. Ma question ce matin, c'est est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Cette expérience personnelle. Est-ce que vous pouvez dire, je sais que Dieu est avec moi? Non pas parce que mes parents me l'ont dit. Non pas parce que les pasteurs me l'ont dit. Mais je sais que Dieu est avec moi. Parce qu'il a fait irruption dans ma vie. J'ai touché sa présence. J'ai connu sa présence. Je veux y demeurer. Et maintenant, quand Dieu se révèle de la sorte à Jacob, voilà la manifestation suprême de la grâce de Dieu. Jacob, c'est un fugitif, c'est un roublard jusqu'à présent. Il n'est pas comme le fils prodigue, en train de revenir chez son père, en train de lui dire, « Oh mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. J'ai volé la bénédiction de mon frère. Pardon, Ésaü, pardon, papa, pardon, Dieu. » Il n'est pas du tout dans cette attitude-là. Et Dieu se révèle à lui, et il ne lui fait aucun reproche. Lorsque Dieu lui apparaît, il ne lui dit pas, « Mais Jacob, pourquoi t'as fait ça ?» Il ne lui dit pas, mais c'est mal de voler, de supplanter son frère. Mais tu manigances sans cesse, arrête donc. Pas demander pardon. Rien de cela. Regardez versets 13 et 14. L'Éternel qui se tenait au-dessus de l'échelle dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Qu'est-ce que Dieu fait ici? Il lui confirme la bénédiction qu'il avait reçue. Il l'avait reçue par la bouche de son père. D'ailleurs, la première fois, c'était involontaire. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui parle à Jacob. Oh, il mérite des reproches pour sa conduite indigne. Et Dieu le bénit. Voilà la grâce de Dieu. Nous méritons d'être condamnés et nous sommes couronnés. Nous méritons la mort et il nous donne la vie abondante. Nous méritons la malédiction et nous recevons la bénédiction. Cette bénédiction, nous la recevons. Pourquoi ? Regardez la fin du verset 14. Il dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Et la postérité d'Isaac, de Jacob ici, c'est Jésus lui-même. C'est Christ. Et comment cette bénédiction nous parvient par Christ ? Jésus a satisfait Dieu par sa vie parfaite. Notre malédiction, il l'a prise sur lui, à la croix. Et sa bénédiction, il nous la donne. La bénédiction suprême, c'est d'avoir accès à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est ce que symbolisait aussi cette échelle. Et sur le plan personnel, Dieu va aussi bénir Jacob. Regardez ce qu'il lui déclare au verset 15. J'aime relever toutes les fois où les « je » de l'Éternel sont mentionnés. Il dit ici « Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Pas seulement ma bénédiction, mais « Je suis avec toi. » Et puis « Je te garderai partout où tu iras. » Vous savez, après un départ forcé, il part seul pour un long voyage. Dieu lui dit, je suis avec toi. Je marche avec toi. Puis je te ramènerai dans ce territoire. Il craignait de ne plus jamais revoir son père. Il craignait de ne plus pouvoir remettre les pieds dans ce territoire parce qu'il est persona non grata dans ces lieux. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Et ce qu'il lui dit, c'est « Je vais te donner un pays. Je vais te donner une postérité nombreuse comme le ciel. » C'est-à-dire, je vais aussi te donner une femme. Tu es parti pour Charan pour rencontrer une femme. Et puis, je vais te donner ma bénédiction. Réalisez-vous la grâce de Dieu. Il faut véritablement s'approcher de Dieu ainsi. Réalisez qu'on mérite tout le contraire de ce que Dieu se propose de nous offrir. Et là, on est démuni, on est juste bouleversé et prêt à adorer. Mais c'est ce qui se passe. C'est la première rencontre de Jacob avec Dieu. Et même si c'est dans un rêve, la chose est tellement réelle pour Jacob que Jacob, il est saisi de crainte. Le lieu devient particulier pour Jacob. La pierre devient un monument. Quand Dieu vous a parlé directement, vous n'oublierez plus jamais le lieu où il vous a parlé. Ni les circonstances de ce moment-là. Comme mon ami Thierry qui n'a jamais oublié le banc sur lequel il était assis. Le jour où Dieu l'a délivré, où Dieu a fait irruption dans sa vie. Est-ce que vous avez un moment ? Est-ce qu'il y a un endroit dans votre vie où vous pouvez dire, là j'ai rencontré Dieu. Là, Dieu m'a parlé. C'était tel jour, dans telle circonstance, Dieu a fait irruption dans ma vie. Non pas mes parents, non pas les gens de mon entourage, mais Dieu lui-même. Quand Dieu vous a parlé, vous n'oublierez jamais cela. Et ça va changer, transformer votre cœur, transformer votre vie. Vous ne connaîtrez plus la même vie. Regardez, Jacob, il a une foi débutante. Il fait ses premiers pas avec Dieu et il fait un vœu. Regardez, il dit verset 20, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob, ici, il est en train de découvrir ce que Dieu fait pour lui. Et donc, il est encore hésitant dans sa foi, il embrasse pas tout ça avec une pleine assurance, il est tellement fourbe lui-même qu'il a du mal à saisir la chose. Mais je relève trois aspects significatifs dans son vœu. Le premier, c'est que Jacob s'attache davantage à Dieu et moins à ses bénédictions. Regardez ce qu'il dit. La première chose qu'il dit dans son vœu, c'est la chose la plus importante, si Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi. Alors, si Dieu est avec moi, de quoi est-ce que j'ai besoin encore? Il dit, pense, un vêtement. Juste un vêtement et du pain. Vous vous souvenez quand il a volé la bénédiction de Dieu à son père, là, Jacob dit, je te demande pour mon fils la graisse de la terre, du pain et du vin en abondance. Je te demande que tous les peuples lui soient soumis. Je demande qu'il domine sur ses frères. Mais quand Jacob a rencontré Dieu, il dit, si Dieu est avec moi, morceau de pain, un vêtement et la paix, et je suis comblé avec ça. Parce qu'il sait que rien ne manque à qui Dieu reste. J'ai juste besoin de Dieu. La deuxième chose qui me frappe ici, c'est que pour la première fois, Jacob, il parle à Dieu. Regardez, il dit verset 22, la fin du chapitre, « Je te donnerai la dîme ». C'est la première fois qu'il dit « je » et qu'il s'adresse à Dieu. « Je te donnerai la dîme ». Il n'a jamais prié avant. Il ne s'est jamais adressé à Dieu. Vous savez, parfois, on apprend à nos enfants à prier. Ils entendent nos prières. Alors, au moment du repas, on dit, tu veux prier? Oui, il récite la prière qu'on a fait la veille. Puis, il y a un jour où nos enfants formulent leur propre prière. Et ça jaillit de leur cœur. Ils commencent à parler à Dieu. Et là, on se rend compte que c'est plus par mimétisme, c'est plus par juste un apprentissage juste intellectuel, mais ça jaillit de leur cœur. Et ils commencent à prier. Parfois, leurs prières sont d'une simplicité, mais d'une authenticité. Ils s'adressent véritablement à Dieu. Et puis, Jacob, c'est la troisième chose que je relève ici. Jacob, il s'engage. Il dit, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et ça veut dire quelque chose pour lui. Ça, l'Éternel sera mon Dieu. Ça veut dire, il a des droits sur ma vie. L'adoration et l'obéissance lui sont dues. Puis il dit, je te donne la dîme. C'est-à-dire, il reconnaît que c'est Dieu qui pourvoit tous ses besoins. La dîme, c'est 10% de ce que Dieu lui a donné. Il le rend comme pour dire, c'est toi qui me donnes toutes choses, Seigneur. Et il s'engage là-dedans, comme l'avait fait son grand-père, Abraham, qui lui aussi avait pris cette habitude. Alors Jacob, il a encore bien des choses à apprendre de son Dieu. Il n'est pas encore arrivé, oh là, il y a encore d'autres choses que Dieu va lui enseigner. Mais vous savez, à partir de là, Jacob va cheminer avec Dieu. La connexion avec le ciel est faite. La porte du ciel a été ouverte et il y est rentré. Est-ce que vous pourriez dire cela vous-même? je sais que je suis connecté avec Dieu. Je sais que si je meurs, ma place est prête au ciel. Est-ce que vous pouvez dire, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille ou entouré de croyants, mais aujourd'hui, je sais que j'appartiens à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas fait cette expérience encore, alors attendez-vous à une irruption de Dieu dans votre vie. Le jour où vous serez seul, dans la détresse, dans l'incertitude, attendez-vous à ce que Dieu parle à votre cœur. Adressez-vous à lui. Mettez-le à l'épreuve. Voyez combien il est un Dieu fidèle. Vous savez, dans une naissance, le bébé dans le ventre de sa mère, il est nourri, il est oxygéné par le cordon. C'est sa mère qui fait tout le travail, c'est elle qui respire, c'est elle qui mange pour que lui aussi puisse se développer. Mais à un moment, au moment de la naissance, c'est l'enfant qui respire. Et c'est l'enfant qui doit manger. Et on sait que l'enfant est vivant parce qu'il respire et parce qu'il mange. Et dans le domaine spirituel, la nouvelle naissance procède de la même manière. On reçoit beaucoup de choses, des privilèges, souvent par notre entourage, que ce soit de la famille, que ce soit une église, des amis qui nous attirent vers les choses de Dieu. Mais il y a un jour où on respire nous-mêmes, un jour où on naît de nouveau, un jour où on connaît une naissance spirituelle, où on goûte nous-mêmes les choses de Dieu. Et il faut nécessairement faire cette expérience personnelle un jour. Je prie pour que chacun ici puisse aussi à faire cette expérience.